Un œil ailleurs, des nouvelles du monde. Sur Studio Zef.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Studio Zef pour cette deuxième émission d'Un œil ailleurs, où nous allons tenter de satisfaire votre curiosité d'auditeur citoyenne et vice-versa, en vous donnant des nouvelles de la santé de notre vieux monde. Dans quelques instants, Alice ouvrira le bal avec son petit tour subjectif de la planète. Salut Alice.
Salut Véro.
Ça va ?
Ça va bien.
Bon. T'as bien respiré, t'as fait ton yoga avant de venir ?
J'ai respiré, j'ai fait pipi, tout okay, va bien, bon, j'ai bu un verre d'eau, tout va bien.
Impeccable. Suivi donc de ta séquence interview, parce que c'est toi qui vas continuer à parler.
Mais tu vas m'aider, parce qu'on mène cette émission à deux.
Exactement. Avec notre invité de marque, comme tous nos invités évidemment, que tu nous présenteras tout à l'heure. Hein. On ne va pas dévoiler tout de suite le mystère.
Exactement.
Je terminerai cette émission sur grand écran avec un film d'un célèbre réalisateur iranien, le tout ponctué d'une programmation musicale à la sauce Worcestershire.
Mais aux petits oignons.
J'ai fait un pari, on m'a dit « Ouais, tu la places, celle-là. »
Mais en plus, tu avais quand même répété avec notre invité, oui, et on ne peut pas dire que ce soit une franche réussite.
J'y arrive pas, ça fait 20 ans que je m'entraîne, j'y arrive pas. Voilà, par notre ami Jérémy. Salut Jérémy, qui nous fait des signes et qui ne parle toujours pas dans le micro, mais on y arrivera.
D'ici le mois de juin, on y arrivera.
Exactement. Eh ben, c'est parti pour le petit tour d'Alice.
De toute façon, ça va être... ils vont faire une autoroute de des autoroutes de l'information, ouais, qui vont vraiment...
Il y en a déjà pas mal, hein, des informations.
Ouais, mais ils vont faire même ils vont faire des autoroutes de l'information, vous en aurez même... ça passera par chez vous, ça passera par tout le monde.
Ah non, alors là, je suis...
De quoi, non ?
Je suis vers le cadastre.
Pour ce petit tour de la planète totalement subjectif, je dois commencer par m'excuser par avance auprès de Jérémy. Parce qu'en fait, à l'occasion d'une réunion de préparation de cette émission, nous lui avions promis de ne pas faire d'un œil ailleurs un causette radiophonique. Or, il se trouve que mon petit tour de la planète de ce mois-ci s'est arrêté à plusieurs reprises sur la condition féminine dans le monde. Jérémy, je te présente donc mes excuses avant même de commencer. Mais comme de toute façon, tu as fait vœu de silence sur cette émission, tu ne pourras pas protester, tout au moins à l'antenne, donc on réglera nos comptes après. Bref, pour ce petit tour du monde complètement subjectif, nous commencerons par nous arrêter en Tunisie, où depuis le 14 septembre, les femmes sont autorisées à épouser des hommes non musulmans. Ce que nous dit Le Monde, je cite, « conforte la Tunisie à l'avant-garde des droits des femmes dans le monde musulman », c'est peu dire. Si les femmes avaient obtenu de nombreux droits dès 1956 avec Bourguiba, la question du mariage mixte était bloquée en fait depuis une loi de 1973 qui invoquait, je cite, « la sauvegarde de l'originalité islamique de la femme tunisienne, de la famille tunisienne ». Il fallait donc, je cite encore, éloigner tous les côtés négatifs de l'Occident. Le président Essebsi a donc cédé aux associations tunisiennes qui demandaient le retrait de cette circulaire considérée comme scélérate. Un petit pas donc pour les femmes qui peuvent maintenant s'attaquer au combat suivant, obtenir l'égalité successorale, c'est-à-dire pouvoir hériter de la même part que les hommes et non pas de la moitié, comme c'est actuellement le cas, une broutille quoi.
Et la victoire des femmes se poursuit au Népal, Alice ?
Tout à fait. Pour être honnête, en fait, il ne s'agit pas d'une nouvelle extrêmement récente, mais je suis tombée dessus dans le quotidien britannique The Independent en faisant mon petit tour du monde et j'avoue que même si ça date du mois d'août, je ne pouvais pas passer à côté. Mais oui, figurez-vous que dans de nombreuses régions népalaises, la tradition veut qu'on mette les femmes en quarantaine pendant leurs règles parce qu'elles sont impures. Elles sont donc virées de la maison et doivent s'abriter où elles peuvent, alors dans des abris de fortune ou dans des étables, dans des conditions d'hygiène qu'on vous laisse deviner, à la merci du froid et des attaques d'animaux sauvages. Alors, dans les faits, ça fait 10 ans que cette pratique est interdite, mais comme la loi n'est pas coercitive, la tradition continue, notamment dans les montagnes. Donc la loi passée en août dernier, qui ne prendra effet qu'en août 2018, hein, prévoit de punir ces pratiques d'une amende de 3000 roupies, c'est-à-dire 29 $, à 3 mois de prison. Notons que cette loi concerne aussi les attaques à l'acide dont sont victimes les Népalaises. Et puis pour clore ce chapitre féministe, filons aux États-Unis, où les femmes viennent indirectement de remporter une petite victoire, comme nous le raconte le Huffington Post. L'histoire, elle est toute bête, c'est celle de Tim Murphy, un élu républicain à la Chambre des représentants, ouvertement engagé contre l'avortement et félicité pour ses positions par les associations pro-life, qui a demandé à sa maîtresse, rien de moins que, devinez quoi, d'avorter, alors qu'elle pensait être enceinte. Le hic, c'est que le texto qu'elle lui a envoyé pour lui reprocher son double discours a été publié dans la presse le jour même où Tim Murphy votait une loi contre l'avortement au bout de 20 semaines. Ce qui, forcément, a fait scandale, à tel point que Tim Murphy a annoncé le 5 octobre qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections.
Et ton petit tour se penche à présent sur l'évolution, malheureusement, de la faim dans le monde.
Et oui, dans la série des régressions, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estime dans son rapport annuel sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, publié le 15 septembre, qu'après de longues années de recul, la faim dans le monde gagne de nouveau du terrain. Le nombre de personnes sous-alimentées est passé de 777 millions en 2015 à 815 millions en 2016. Alors sans surprise, on retrouve dans le peloton de tête des pays en crise alimentaire le Soudan du Sud, le Nigeria, le Yémen et la Somalie, qui ont le grand avantage de mêler conditions climatiques arides et conflits armés incessants. Des conflits qui font fuir les paysans et bloquent le passage de l'aide humanitaire aux populations. La Centrafrique et la République démocratique du Congo sont aussi sous les projecteurs de la FAO, sans parler des Rohingyas qui fuient la Birmanie. Et la FAO ne se montre pas particulièrement optimiste quand elle explique que le changement climatique et les catastrophes qu'il entraîne pourraient ne pas améliorer la situation, étant donné les conflits qui en découlent.
Alors, on reste en Afrique pour terminer sur une petite note optimiste.
Oui, quand même, il fallait. C'est une petite nouvelle que j'ai glanée sur le site internet de Jeune Afrique. Le 7 octobre, à Bamako, une quinzaine d'associations et d'organisations de la société civile d'Afrique de l'Ouest ont créé le FISPA, c'est-à-dire le Front international des sociétés civiles panafricaines, sous le parrainage du chanteur ivoirien Tikwenja Fakoli. Et ce FISPA a pour but de promouvoir la démocratie, la dignité de l'Afrique et les droits de l'homme. Et devinez quoi, et c'est là que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, la première action du FISPA, c'est une plainte déposée ce 7 octobre devant la Cour pénale internationale contre Nicolas Sarkozy pour avoir déclenché la guerre en Libye et avoir provoqué la mort de Kadhafi.
When Britain first at heaven's command arose from out the azure main, arose, arose from out the azure main. This was the charter of the land, and guardian angels sang this.
Vous êtes toujours dans l'émission Un œil ailleurs, des nouvelles du monde. Et on continue avec toi, Alice, avec l'interview.
Tout à fait. Et cette petite
mise en musique nous donne quelques idées de où on se dirige. Parce qu'en fait, on ne part pas très loin de chez nous pour cette édition d'Un œil ailleurs, puisqu'on va se contenter de traverser la Manche pour aller découvrir l'Angleterre avec Ruth Steele. Alors, bonjour Ruth.
Et bonjour.
Je m'étais exercée à prononcer Ruth en se tirant la langue, ouais. mais ça ne marche pas.
On est témoin.
Donc, c'est pas grave. Voilà, je t'appellerai Ruth et je vais faire ce que je peux d'ici la fin de l'émission. Donc Ruth, tu es originaire de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Oui. Tu es arrivée en France en 2015 pour suivre un cursus Erasmus à Tours. Et puis, ma foi, tu as l'air de bien te trouver ici parce que tu es restée.
Oui.
Et tu es actuellement EVS, l'acronyme barbare qui désigne les emplois de vie scolaire à l'école des Hautes-Saules à Blois. Donc avec toi, en fait, on va essayer de parcourir l'Angleterre et ses spécificités. Parce que l'Angleterre, c'est juste à côté. C'est le pays où certainement la moitié des collégiens ont fait leur premier voyage linguistique. Alors moi, j'avoue, je suis germaniste, j'y ai mis les pieds il y a à peu près 4 ans et demi à l'occasion d'un super voyage à Londres sous un temps ensoleillé. Donc moi, tous les clichés de l'Angleterre sont tombés d'un coup.
J'y suis allée et j'ai fait la tournée des pubs. Des pubs.
J'ai eu peur. Comme tu as commencé, j'ai eu très très peur. Mais tu t'es bien rattrapée.
T'as vu ?
Bravo. Alors, de ce côté-ci de la Manche, chez nous, l'Angleterre, c'est tout à la fois le libéralisme, la solidarité ouvrière, le multiculturalisme. C'est l'héritage de Thatcher. C'est un pays quand même dont j'ai découvert que la fête nationale a lieu le 14 juin, jour de l'anniversaire de la reine.
Oui, ok.
Non, tu contestes ?
Enfin, on ne dit pas que c'est la fête nationale, on dit que c'est son anniversaire. En fait, la reine, elle a deux anniversaires.
Elle a
son anniversaire de naissance, pour tout le monde. Et elle a son anniversaire de couronnement.
D'accession au trône. Oui. D'accord. Et alors, le 14 juin, ça correspond à quoi ?
Là, je crois que c'est le couronnement.
D'accord. Ah, ok.
Je crois.
Ah, parce que je me disais quand même un pays qui, qui fait la fête le jour de l'anniversaire de la reine. C'est quand même... Il n'y a que les Anglais, quoi. Ouais. Bref. L'Angleterre, c'est aussi la cinquième puissance économique mondiale. C'est un pays qui fait rêver tout le monde avec son taux de chômage de 4,9%. Enfin, on en reparlera. Et puis l'Angleterre, c'est le foot et la musique. Forcément, alors moi, ouais. Je vais faire ma vieille, c'est les Beatles, c'est les Rolling Stones, vraiment, c'est les Clash, c'est PJ Harvey. L'Angleterre, bref, c'est la pop culture. C'est l'Eldorado des Français en quête d'étrangers, mais aussi des migrants du monde entier. Mais c'est aussi un pays qui a dit non à l'Europe le 23 juin 2016. Bref, c'est un pays complexe. Et grâce à toi, Rousse, on va vérifier nos clichés, les faire tomber, les faire perdurer. Et puis, tu vas nous le faire découvrir. Alors, moi, je suis désolée, je vais revenir à la reine. Mais ma première question, Rousse, c'est comment vous, les Anglais, vous voyez cette famille royale et comment on fait en 2017 pour vivre dans un pays dirigé par une reine, quand on est anglais et qu'il y avait, voilà, moi ça me pose question. Comment vous la voyez ?
En fait, la reine ne dirige rien.
D'accord.
C'est comme ça qu'on fait.
D'accord.
On dit qu'elle est la tête de l'État, mais en fait, elle ne fait rien. Elle n'a pas le droit de voter même.
Ah bon ?
Elle est la seule citoyenne en Angleterre qui n'a pas le droit de voter. Et aussi, elle n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire.
Ah oui.
Je ne sais pas pourquoi.
D'accord. C'est trop dangereux.
Ça nous rajoute du mystère.
C'est ça.
Aucune idée pourquoi. Voilà. Et du coup, ils sont là pour la cérémonie, pour
le décorum, quoi. Mais
c'est ça. C'est...
Mais les Anglais, par rapport à cette famille royale, ils la prennent au sérieux ou en gros, ça fait partie du décor et puis bon, voilà, ils sont là, mais la royauté, c'est... Enfin, ce qui compte le plus, c'est finalement un régime parlementaire plus que...
Bah, ça dépend tout à fait à qui tu parles.
D'accord.
Tout le monde a des opinions différentes. Je connais plein de gens qui sont contre la famille royale, qui pensent que... Ils prennent trop d'argent.
Ce que j'allais dire, ça coûte un peu d'argent quand même,
oui,
cette affaire.
Oui, oui, oui. Quand même, toutes les palais et tout, c'est pas... voilà, ouais. C'est un peu cher. Mais aussi, je connais plein de gens qui pensent que cette famille, c'est une partie intégrale de notre patrimoine à nous. Mm. Et que de perdre ça, ça serait comme perdre une partie de notre culture.
De votre identité.
De notre identité. Et du coup, ça... C'est vrai que on dit qu'elle ne sert à rien, entre guillemets, elle ne sert à rien. Mais pour nous, elle nous mène en termes de patrimoine, de culture, d'histoire. Elle est très importante à nous. Et c'était il y a je ne sais pas combien d'années, il y a pas longtemps, elle a demandé à passer une loi. Pour changer l'ordre de succession.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, maintenant, les femmes sont égales avec les hommes.
Ah non, c'était comme en Tunisie ?
Oui, mais que dans la famille royale.
Ah, que dans la famille royale, tu me rassures.
Enfin, c'est égal partout, mais dans la famille royale, non, ce n'était pas. C'était les garçons qui héritaient avant les femmes.
D'accord.
Et c'était il y a pas longtemps qu'elle a changé ça. Et ça, vraiment, je pense que... Enfin, pour moi, c'est la chose la plus importante.
Ouais, qu'elle ait faite.
Plus importante,
ouais.
qu'elle a fait. Parce que nous, on apprend dans nos cours d'histoire de tous les rois et rois et rois. Et ouais. De temps en temps, il y a une reine. Mais que quand il n'y avait vraiment pas de garçon d'héritage royal. Ouais. Et pour là, ça, elle c'est, a tout changé.
Pour ça, c'est un personnage particulier. Bon, on va pas faire toute l'interview là-dessus. Mais non, mais en même temps, je me dis, elle est quand même un peu hors norme. Enfin, au-delà du fait qu'elle est un peu excentrique en plus dans son look avec ses chapeaux, etc. Mais elle a un côté. Elle a un côté peut-être à part et peut-être un peu féministe au fond. Enfin, soyons. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
C'est très difficile d'interpréter ce qu'elle pense parce qu'en fait, elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense.
En fait, elle n'a pas le droit de voter, elle n'a pas le droit de conduire, elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense.
Non, mais vraiment.
Elle a le droit d'être en photo dans la trash press, je crois, c'est ça ce qu'on dit dans les tabloïds, ouais. Quoi, en gros. C'est ça.
Et elle doit soutenir le gouvernement qu'elle a.
D'accord.
Parce que c'est le peuple qui a voté. Uh-huh. Et elle dit qu'elle est pas une esclave, mais qu'elle serve le peuple.
Elle est au service.
Elle est au service du peuple. Ouais. Et du coup, elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense. Elle n'a pas le droit de choisir un premier ministre parce qu'elle, ce n'est pas sa place.
D'accord.
C'est au peuple à choisir.
Donc d'accord. Ça veut dire qu'elle n'est jamais consultée pour les affaires du pays.
Elle a le droit de consultation. Une fois par semaine, elle voit le Premier ministre, peu importe où ils sont, les deux dans le monde. Elle a une consultation avec lui. Et lui, il demande à elle son avis. C'est parce que quand même, elle a pas mal d'expérience dans ce monde politique. Du coup, elle peut conseiller. Elle peut donner des idées ou peut-être suggérer certains choix au lieu d'autres. Mais si le Premier ministre ne veut pas écouter, ouais, il n'est pas obligé.
C'est vraiment de la consultation pure.
C'est ça.
D'accord. Bon.
Tu es satisfaite,
Alice? Oui, tout à fait. J'ai ma petite idée. Mais du coup, ça, on va dire que ça va me faire encore plus aimer les Anglais. Moi, le fait qu'ils trouvent que la reine fait partie du patrimoine, moi, je trouve ça formidable. C'est ça. Non, maintenant je voudrais alors aborder parce que finalement moi ce que je me dis c'est qu'on alors en plus moi particulièrement je ne connais de l'Angleterre que Londres. On a l'image d'une ville moi très sincèrement je trouvais une capitale à taille humaine où on se sent bien où une capitale dynamique plein emploi. À côté de ça moi j'ai la vision d'un sud plutôt une côte escarpée la campagne etc. Et puis, moi, je vois un nord plutôt sombre, ouvrier, encharbonné. Donc
bah, voilà. C'est ça que voient les Anglais du Sud aussi.
D'accord. Donc, toi qui es de Leeds, au nord-ouest, tu nous as dit de...
Je suis un peu tout à fait au milieu. Je suis au nord-ouest de ma région.
D'accord.
Mais Yorkshire, c'est à l'est du pays. Nord-ouest, l'est, ça fait.
Alors, Rousse, en fait, elle nous fait des schémas. Et, ouais, voilà. Et donc, si vous arrivez à nous suivre, voilà, sur la carte, c'est à peu près où il y a la mer Rousse.
C'est quand même sur toutes les cartes.
Mais du coup, est-ce que. C'est quoi le nord de l'Angleterre? C'est un paysage qui ressemble à quoi? Et pourquoi? Parce qu'on en a beaucoup parlé. Alors, on ne va pas faire l'émission sur le Brexit, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du nord de l'Angleterre. Et voilà, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au reste du pays? Est-ce que Londres, c'est en gros, ça n'a rien à voir avec...
N'a rien à voir. pour Londres, je ne peux pas trop parler parce que je ne suis allée que deux ou trois fois de ma vie. Mm-hmm. Ça ne m'intéresse pas du tout.
D'accord.
Je ne suis pas quelqu'un qui aime les grandes villes. Et à Londres, en plus, on a des problèmes entre le nord et le sud de l'Angleterre. Du coup, si je vais au sud, avec mon accent, que je ne peux pas enlever.
D'accord.
C'est mon accent. J'aurais,
tu vas être étiquetée.
Enfin, on ne dit pas qu'il y aura de la discrimination, mais bon, on dit aux enfants du Nord, quand ils sont petits, on leur apprend à enlever leur accent parce que sinon, ils n'auront jamais un emploi.
C'est vrai?
Oui, on D'accord. dit si tu vas dans un entretien d'emploi avec ton accent, tu n'auras rien.
Et pourquoi? Parce que c'est
la discrimination contre... Contre le peuple.
D'accord.
Du Nord.
Ok, c'est plus un nord de l'Angleterre qui est plus populaire, en fait.
C'est ça, et c'est le nord. Et il y a certaines... En fait, c'est le plus loin de Londres que tu vas, peu importe quelle direction. Le plus fort l'accent régional, normalement. Et le plus... enfin, le moins respecté.
D'accord.
Tu es le plus discriminé, tu es contre.
D'accord. Ah, c'est quand même un pays qui met comme ça une... Parce que bon, cette... Enfin, dis-moi si je me trompe, mais cette distinction, on l'a aussi à Paris. Enfin, le Parisien est quand même légèrement supérieur au provincial.
Oui, mais c'est une distinction.
Pas à ce point-là. C'est une distinction, c'est pas une discrimination, voilà. Quoi. Ouais. Voilà, c'est ça.
Oui, j'ai fait un grand projet sur ça quand j'étais à l'université, sur la différence entre... La discrimination contre les accents régionaux entre la France et l'Angleterre. Enfin, j'ai fait surtout le Royaume-Uni, je pense. Et justement, ici, si vous entendez quelqu'un avec un accent du Sud, peu importe où, du Sud, vous dites « Ah bah, tu viens du Sud !»
Oui.
Et voilà la fin de la conversation, un peu.
Oui, on peut même trouver ça charmant.
Oui, ça ne va pas plus loin que ça.
C'est chantant, enfin, nous, généralement, on aime bien.
Voilà. Mais nous...
C'est clairement un outil, un signe discriminatoire.
Nos accents changent visiblement, audiblement, chaque 10 km environ.
D'accord.
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accents régionaux.
Mais comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, nous ? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à parler anglais.
C'est pour ça que vous ne sortez pas de Londres.
Exactement. Mais voilà, complètement décomplexé. Voilà.
Ouais, mais même en Londres, il y en a... Je ne sais pas... Je ne pourrais pas compter combien d'accents il y a à Londres, selon tous les groupes culturels.
Mais l'inverse n'est pas valable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination de la part des gens du Nord par rapport à ceux du Sud.
Ah oui, tout à fait.
Ça ne va pas dans le sens. Oui, aussi.
Ah oui.
Ah oui, de la même manière. En fait, mais c'est pareil.
Non, mais historiquement, ça, enfin, je ne connais pas...
On ne discrimine pas en termes de... Si tu te postules pour un emploi, si tu as un accent du Sud, tu l'auras, forcément. Mais si... Moi, j'ai des amis qui sont du Sud d'Angleterre, qui sont venus au Nord, à l'université. Et c'était difficile, hein.
D'accord.
Tous les soirs, c'était...
On leur faisait remarquer...
On fait remarquer... C'est pas... Je veux pas dire qu'on se moque d'eux, mais oui, un peu.
Presque.
D'accord.
Presque, quoi.
D'accord. Et alors justement, ce nord de l'Angleterre, parce que tu parles d'une discrimination, alors notamment entre Londres et les régions, est-ce que ça se vérifie aussi en termes de développement économique, en termes...
Oui, complètement, oui. Carrément.
C'est-à-dire que j'ai une arrière-pensée, hein, forcément, c'est ce qui est ressorti là. C'est-à-dire que le Nord, c'est un petit peu l'Angleterre populaire dont on a un peu oublié de s'occuper, c'est une réalité, c'est ça.
En fait, il n'y a pas longtemps... j'ai vu sur nos... On a les chaînes d'actualité régionaux. Et j'ai vu qu'en Londres, ils ont dépensé 4 fois plus sur les protections contre les inondations que pour toute la région de Yorkshire. C'est-à-dire, toute la région de Yorkshire, il n'y a plus les gens qu'en Écosse.
D'accord.
On a quand même un bon 5 millions d'habitants. Et ils ont dépensé 4 fois plus que pour le centre de la ville de Londres, où il n'y a jamais des inondations. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu des inondations à Londres.
La Tamise déborde de temps en temps.
C'est ça. Mais chez nous, ça, c'est tous les ans. C'est plusieurs fois par an. C'était Noël. C'était le 26, jour après Noël 2015, 2010, 2016. Ça a inondé et nous on a perdu tout ça. Pas moi, pas ma maison, mais c'était pas loin, un kilomètre et demi de chez moi. Tous les magasins sont encore fermés parce qu'ils n'ont pas d'assurance, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'assurance parce que ça coûtait trop cher parce qu'il y a toujours les inondations.
D'accord.
Mais le gouvernement ne fait rien parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent.
D'accord.
Mais tranquille, hein, ils ont des millions et des millions à dépenser sur les défenses de Londres.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, pas d'argent, mais moi, là, quand je me suis documentée un petit peu, c'est quand même donc, c'est la deuxième puissance économique européenne, je crois, ex aequo, avec la France derrière l'Allemagne, cinquième puissance économique mondiale. C'est une économie qui est beaucoup basée sur la place financière londonienne, justement. Oui. Et puis, en effet, alors, je te voyais tiquer tout à l'heure, c'est un pays, je disais 4,9% de chômage, même, je crois que là, en dernier trimestre 2016, c'est même 4,3 officiellement, plein emploi à Londres. Là, je disais dans Le Monde que depuis le Brexit, même les cafés, les maraîchers, les agriculteurs trouvent plus de main-d'œuvre, enfin voilà. Mais c'est marrant parce que c'est pas vraiment... Alors, et à l'inverse, 16,9% quand même de chômage chez les jeunes. Et moi, j'ai en tête ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, j'avais fait des études de français, comme de toute façon, j'avais rien à faire en Angleterre. Je suis venue en France, qui m'a quand même posé question. Oui. Et donc voilà, c'est quoi en fait? C'est un pays à deux vitesses? Parce que moi, j'avais quand même pas en tête que c'était le plein emploi partout en Angleterre. Ça se passe comment en région?
Chez nous, je ne sais pas, pour le sud, comme j'ai dit, j'y vais jamais.
On va parler du nord.
Mais chez nous, c'est très difficile de trouver un emploi. Oui, bon, ok, tu peux être serveuse dans un café ou un restaurant. Si tu as un diplôme d'infirmière ou concours pour être prof, il y a des emplois là, mais... Comme moi, je suis sortie de l'université avec une licence dans la langue et culture française. Uh-huh. Et je fais quoi avec ça, moi?
Ouais. Il n'y a pas de poste de prof ou
Bah oui, mais il faut faire le concours. Mmh. Et à cause des systèmes des frais d'université, moi, je n'avais pas assez d'argent pour me payer encore un an à la fac. Et du coup, avoir le concours du prof, ce n'était pas possible. D'ailleurs, je ne le voulais pas. Uh-huh.
Les études coûtent très cher.
Très cher.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'université gratuite. Alors, gratuite en France, ce n'est pas complètement gratuit, mais soyons honnêtes, c'est quand même pas. C'est très accessible. Oui,
carrément.
Ouais. C'est de l'ordre de combien une année universitaire en Angleterre?
Là, en ce moment, c'est 9,5 000 livres par an.
Livres.
Ça fait 11 000 euros.
Oui, c'est une bonne école privée, en effet.
Oui, quand même.
Oui.
Ouais. D'accord.
Moi, j'ai eu de la chance, j'étais dans la dernière année qui sont passées à 3,5 000 livres, ou 4,500 euros à peu près.
Et du coup,
j'avais de la chance parce que je ne voulais pas aller à l'université en fait. Je voulais aller voyager un peu, me reposer des études un peu. Mm-hmm. Et ma mère m'a dit non, regarde parce qu'ils vont.
Ça va augmenter.
Ils vont augmenter les frais et je peux pas faire ça.
Et du coup, alors, c'est quoi le truc? On s'endette? C'est comme aux États-Unis, en fait. Les étudiants s'endettent en prévision de leur prochain job.
Ah, moi, j'ai plus que... Je pense que je suis à environ 25 000 livres de dette en ce moment.
D'accord.
Oui.
D'accord. Et donc,
ça fait mal.
Et sachant que donc il y a quand même un taux de chômage chez les jeunes de 16,9%, donc derrière le boulot il est pas assuré non plus.
Non, pas du tout.
Et alors pourtant un pays à 4,3% de chômage, toi l'équation tu l'as fait tu l'expliques comment en fait ce fait? C'est la différence entre Londres où il y a un très fort taux d'emploi et le
probablement.
Reste.
Probablement, je ne sais pas. Franchement, ils font des contrats à zéro heure pour dire qu'il y a les gens avec les emplois, mais en fait, ces gens, ils travaillent 4 heures par semaine.
Ah ouais, d'accord. Ok, on a le plein emploi parce qu'il n'y a pas de durée minimum de travail, il n'y a pas de salaire minimum,
Il y a un salaire minimum. Je pense que si tu as plus que 21 ans, c'est vers 7 livres par heure.
D'accord.
C'est rien.
D'accord.
C'est rien. Uh-huh.
Oui, surtout que le coût de la vie est extrêmement cher.
Ah oui. Ouais, au sud. Ouais. Au nord, non.
on va se faire une petite pause musicale et puis on reprend notre interview après. À toi, Jérémy.
œil ailleurs des nouvelles du monde sur Studio ZEF.
Non, mais c'est maintenant, d'accord. Vous venez d'écouter Motherless Child de Romer. Romer est anglais, mais c'est plutôt de la culture africaine qu'il s'inspire. Son nom vient de Romer Bearden, excusez-moi pour l'accent, artiste américain mort en 1988 qui exprimait sa vision de l'Afrique à travers des collages. Romer fait quant à lui la même chose, mais en musique. En utilisant des samples provenant de vieux documentaires, il produit un son liant instruments africanisante, voix perchée et musique électronique. Rien de lisse ni d'attendu chez Romer, qui se situe toujours à bonne distance entre la citation et l'invention. Vintage, mais imaginatif, il rend bien davantage qu'un bel hommage à la black music. Alice, on continue l'interview ?
On continue. Oui, moi je voulais revenir un petit peu, on a parlé d'éducation. Alors juste, pendant la pause musicale, tu nous disais qu'en fait, les études sont extrêmement chères, mais à partir des études supérieures. Mais sinon, en fait, on peut... l'école est gratuite.
Oui, d'accord. De l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans, tout est gratuit.
D'accord.
Sauf si tu choisis d'aller dans le privé, c'est possible.
Et toi qui es EVS en France, comment tu perçois la différence ? Enfin, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous... Est-ce qu'il y a une grande différence dans l'enseignement, dans l'encadrement peut-être ?
Je trouve que les enfants partout sont un peu pareils. Ouais. Ils aiment tous la Reine des Neiges. Tout est...
Ah non, je ne l'ai pas en tête. Les
hand spinners, c'est un peu pareil partout. Mais le système scolaire, c'est très... Enfin, de ce que je connais, c'est très différent. Et je trouve que... Enfin, je parle aux assistants d'anglais qui enseignent l'anglais dans les écoles et les collèges et lycées de Blois. J'en connais pas mal. Et en parler avec eux, ils disent souvent que la première chose que la FAP, quand ils rentrent dans une école, c'est que les enfants ne portent pas d'uniforme.
Ah oui. Bah oui, c'est vrai que c'est juste un petit détail.
Et ça nous fait ça. Mais la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait trop flipper parce que je n'avais jamais vu une école sans uniforme.
Sans uniforme.
J'étais trop habituée à ça. Et j'ai vu des enfants qui étaient en CM2, qui étaient assez grandes, qui étaient le même taille que des profs. J'ai dit, ah, mais clairement, c'est un enfant, mais de derrière, je ne savais pas si c'était un enfant ou...
Ce que ne fait pas l'uniforme, du coup...
C'est ça, ça me remet en question, je me doute.
D'accord.
ça fait trop bizarre de...
Ah, tu sais que c'est un grand débat en France, l'uniforme, ouais. Parce que nos derniers candidats à la présidentielle voulaient nous le ramener, avec des valeurs quand même un petit peu
rétrograde,
voilà. Et alors, quel est l'argument ? Enfin, toi, t'en penses quoi de cet uniforme ?
Moi, j'aime bien les uniformes scolaires.
Ouais.
Enfin, j'aimais bien quand j'étais en école et collège et lycée parce que je n'ai jamais dû choisir quoi porter le matin.
C'était facile.
Ça te prend 30 secondes de mettre ton uniforme. Tranquille, et tu sors. Et en plus, genre, les uniformes, ils sont faits exprès, ils sont fabriqués exprès pour les enfants. C'est-à-dire, c'est dur à les déchirer, à les détruire.
Les vêtements s'abîment moins.
Les taches, tout est fait exprès pour les enfants, ça s'abîme moins. Et du coup, moi, quand je suis rentrée de ma maison, je ne l'ai pas enlevé. Je suis sortie, j'ai joué avec tout le soir. Parce que chez moi, je n'ai jamais joué dans la maison aux jeux vidéo, uh-huh. aux trucs comme ça. Il y avait des bois juste à côté de ma maison. Allez, j'ai grimpé dans les arbres, j'ai fait tout ça. Mais je n'étais jamais à l'intérieur, en fait, comme enfant. Mm-hmm. C'était juste moi. J'avais des amis qui jouaient à l'intérieur, mais moi, jamais.
Et en uniforme, dans les arbres.
Et en uniforme. Et franchement, je pense que si je l'aurais fait dans un jean et un t-shirt, je ne sais pas si
tu
ma maman...
Tu n'aurais plus le droit de sortir.
Bah oui, elle aurait été tellement à l'aise.
Nous, le débat, en fait, porte sur le fait que ça gomme... Alors, les pros disent que ça gomme les inégalités sociales.
Oui,
on ne le voit plus.
Ça, oui.
Les contres disent que ça gomme la personnalité des enfants et que ça met tout le monde dans le rang. Vous avez quel regard là-dessus ?
Je peux vous assurer que j'ai porté un uniforme de l'âge de 4 ans jusqu'à 16 ans et j'ai quand même une personnalité.
Ouais, ça va, ça va, tu
nous rassures. Je vous assure.
Oui, oui, tout à fait.
Tu nous rassures. Bien, bien. Donc en fait, ouais, c'est essentiellement sur cet aspect de d'uniforme.
C'est ça,
que...
c'est ça. C'est les enfants qui n'ont pas les moyens d'acheter les nouveaux t-shirts de marque et tout ça, peu importe.
Et c'est vrai que c'est intéressant, effectivement, comme débat, parce que ça montre à quel point on est vraiment phagocyté par l'apparence, en fait. On
est, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et c'est là que ça démarre.
Et c'est là que ça démarre, quand même.
Tout à fait.
Parce que la pression du groupe est absolument essentielle à l'école.
C'est ça.
C'est le groupe qui commande, c'est pas l'individu.
Ouais, tout à fait.
Et c'est comme ça en Angleterre, ça ne change pas.
Ouais.
C'est juste que il faut... Chez nous, il fallait porter un pantalon noir. Et mes pantalons noirs, tu serais étonné, il y en a, je ne sais pas combien de types, de styles, de tout ça. Du coup, il y a quand même ça, mais ils sont dans leur rayon uniforme, dans le magasin, et
d'accord.
Ils ne coûtent pas cher.
Ouais. Intéressant, en effet, on a un autre regard... Ouais. Et moi, je voulais revenir avec toi un petit peu sur du coup le nord de l'Angleterre, parce que on a, alors moi, c'est peut-être une image un petit peu d'Épinal, je ne sais pas si on peut dire ça, de l'Angleterre. Moi, le nord de l'Angleterre, je le vois à travers les films de Ken Loach et les différents films. J'y vois toujours une condition ouvrière difficile, mais hyper solidaire. C'est quoi ? Est-ce que c'est une image réelle, ce cinéma ? Est-ce que ça reflète une image réelle de l'Angleterre, ou est-ce que bon, c'est...
Oui, je dirais. On est très ouvert. De travailler chez nous, c'est très important.
C'est une valeur fondamentale.
C'est une valeur. On dit beaucoup le mot graft. Et graft, c'est un synonyme pour travailler, mais c'est de faire un vrai effort avec tes deux mains. C'est au manuel. C'est vraiment une valeur que nous on apporte aux enfants, parce que s'ils ne savent pas comment travailler, comment vraiment se mettre à quelque chose et ne pas s'arrêter jusqu'à ce que ce soit fait.
Aboutissent.
Oui. Nous, on pense que ça, c'est très important de fournir pour sa famille, pour lui-même.
Et du coup, ça fait une petite différence avec j'en reviens à cette dichotomie avec Londres, mais avec un Londres qui vit grâce à une place financière hyper importante, où... de là à faire des choses avec ses mains, c'est pas exactement d'accord. Et ces villes, pardonnez-moi pour les clichés, hein, mais ces villes de briques un peu sombres, non mais c'est vrai quoi.
Oui,
c'est vraiment ça.
Bah, ils
c'est
existent, ça. On les a pas inventés.
Vous les avez pas inventés, c'est pas Ken Loach qui les a inventés pour les mettre dans ces films.
Non, elles existent.
D'accord.
Voilà. Je peux vous rassurer qu'on a des villes en briques. Où il pleut, où il fait sombre.
Donc c'est vrai. D'accord, donc c'est la
Oui.
Et en termes justement d'économie, le Nord, c'est quoi ? Alors tu disais, parce que faire des choses avec ses mains, on sait que les mines ont fermé, on sait qu'il y a eu pas mal de segments de l'économie anglaise qui se sont cassés la figure dans les années 80. Aujourd'hui, c'est quand même, c'est un Nord qui est relativement pauvre, où il y a quand même une économie qui se développe.
Je pense qu'on... On peine un peu en ce moment de trouver notre nouvelle identité maintenant qu'on n'a plus les mines, on n'a plus les usines comme on avait avant. Je pense qu'on est dans un moment de... On a perdu ce qu'on avait, on ne sait pas trop avec quoi on peut le remplacer. Du coup, on s'inquiète un peu. Il y a beaucoup de villes qui prennent des directions différentes. Je sais qu'à Leeds... ils ont mis beaucoup d'argent sur les magasins et le centre-ville, qui est maintenant très, très, très beau. Et indigent, il y a beaucoup de magasins de marque. Ils veulent attirer les gens avec de l'argent, comme ça, avec le tourisme.
D'accord.
Parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a... C'était que 2014 ? Oui, l'été 2014, je pense, la Tour de France s'est démarrée à Yorkshire.
D'accord.
Partie à Leeds. Et ils ont fait toute la tour, presque la campagne chez nous, qui est quand même beau. Et je m'en souviens, j'ai vu des interviews avec, avec des gens, même du sud, enfin les Français aussi, mais même les gens du sud d'Angleterre qui disent « Mais je ne savais jamais que le Nord, que c'était si beau. »
Ça vous a, ça a attiré une nouvelle population
Et du coup, ça nous a mené dans une autre direction, je pense. On a beaucoup plus de tourisme maintenant grâce à ça, qui est forcément une bonne chose parce que il nous faut quelque chose.
Et alors moi un autre, mais qui va peut-être avec cette condition ouvrière, cette crise, voilà, alors, c'est pareil, on est dans les clichés. Hein. Moi, j'ai dit que je balançais des clichés pour voir. Et le foot. Parce que c'est pareil, on a dit une vraie condition, une vraie solidarité ouvrière, mais moi j'ai l'impression que le foot c'est un ciment, mais ça va avec, le foot c'est quand même le premier sport, c'est le sport qui coûte le moins cher, c'est un sport hyper populaire, c'est un vrai ciment sociétal en Angleterre.
Ah oui. Ouais. C'est très important ça, et rugby aussi.
Le rugby. D'accord.
Parce que nous on a deux types de rugby en Angleterre, on a l'Union et League. Je ne sais pas comment dire ligue en français parce que ça n'existe pas en France.
D'accord.
Et au nord d'Angleterre, on joue à rugby league. Et c'est un différent. Enfin, c'est à peu près le même jeu, mais il y a des règles différentes.
C'est juste les règles qui changent.
C'est juste les règles qui changent.
Il y a toujours un ballon ovale.
C'est ça.
Tu le balances, tu cours après. De toute façon, ça reste un ballon, il faut courir après. Voilà.
On est des pros avec Alice en sport.
Oui. Je vois. Et oui, du coup, il y a ça, il y a le foot. Personnellement, je suis pour Liverpool.
Ah oui, d'accord.
J'ai ma famille qui vient de là.
C'est ça. Manchester City aussi et Manchester United, je crois qu'il y a deux.
Oui. Il y a deux équipes à Manchester, il y a United et City. Et à Liverpool, il y a Liverpool et Everton. Du coup, c'est un sujet un peu difficile. Aborder
sans prendre parti, sans s'emballer. Ok, on va rester. On va rester neutre. Oui, on va rester neutre.
On terrain neutre.
Et je voulais revenir. Je vois que le temps tourne. On a encore un petit peu de temps. Moi, je voulais. Tout à l'heure, tu as dit. Il y a une crise un petit peu. Il faut trouver un autre, d'autres secteurs économiques. Est-ce que ça peut être une crise identitaire? Parce que une autre image qu'on a de l'Angleterre énormément, et d'ailleurs c'est le cas, c'est un pays vraiment d'immigration. C'est un peu l'Eldorado. C'est un pays où nous, quand en France, on se bat sur un espèce de principe de laïcité où on cache tous les signes religieux, on nous met l'Angleterre en exemple en nous disant « Mais regardez là-bas, chacun porte le foulard, la croix, le truc, le bidule et ça gêne personne.
Oui. »
Ça se passe réellement bien. C'est vraiment un pays multiculturel, ouais.
Ah oui.
D'accord.
Et ça, dans tout l'Angleterre. Il n'y a pas qua Londres qu'on voit le...
Non, c'est partout. C'est partout.
C'est de l'intégration ou du coup c'est de la vie les uns à côté des autres?
Ça dépend où tu vas. Je sais qu'il y a une ville juste à côté de chez moi qui s'appelle Bradford. Il y avait beaucoup de mines là, et juste au moment que Thatcher a fermé le mine, ils ont donné le droit aux Indiens de venir. On l'appelait le Windrush pour les Jamaïcains, c'était un peu pareil pour les Indiens. Et du coup, on a eu énormément des Indiens qui sont venus, et juste au moment que le mine se fermait, du coup, tous les gens. Je dis tous les Anglais, entre guillemets, qui habitaient à Bradford sont partis parce qu'il n'y avait plus de boulot. Du coup, toutes les maisons étaient pas chères. Du coup, tous les immigrants qui sont venus ont dit, on va s'installer là, c'est pas cher.
D'accord.
Et du coup, maintenant, Bradford, c'est le centre culturel indien du nord d'Angleterre. Et c'est génial, leur fête de Diwali, mais laisse tomber les feux d'artifice, les feux dans les rues. Mais c'est génial, on y va, nous, en fait. Ouais. Je suis pas hindue, moi. Mais...
Ouais, ça fait partie du coup de. Ça, c'est une culture qui s'intègre dans la culture anglaise.
C'est ça. Mais à Leeds, par exemple, qui est juste à côté, vraiment pas loin, on est beaucoup plus intégré. Pour chaque rue, il y a des familles indiennes, des familles pakistanaises, des familles anglaises, des familles...
Plus de mélange, en fait.
C'est beaucoup plus mélangé. Mais à Bradford, il y a ce phénomène où c'est beaucoup un centre... Voilà.
Parce que quand même, ce qui a été expliqué au moment du fameux Brexit, c'est qu'il y a eu un espèce de rejet sur l'étranger, de peur des migrants, et de dire c'est de leur faute. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, parce que c'est un pays où ça fonctionne, et pourtant il y a quand même ces peurs qui traînent.
Bah, c'est pareil en France, ça dépend à qui tu parles. Il y a des gens qui pensent que c'est la faute des étrangers qui sont venus, qu'ils ont pris tous nos emplois, que ça nous laisse pas d'argent, qu'on leur donne nous on a un système de santé gratuit.
Le NHS.
Quand tu y vas, le NHS, oui. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, hein, on paie nos impôts.
Oui, mais c'est un peu comme la sécurité sociale, ça permet...
Au point de service, c'est gratuit. Moi, je n'ai jamais payé de l'argent pour aller au médecin. D'accord. Ça m'a fait trop bizarre quand je suis venue en France. Et un médecin m'a donné de l'argent. J'ai dit, j'ai pas d'argent, pourquoi j'ai besoin d'argent pour venir au médecin? Et du coup, on dit que oui, on a des touristes de santé qui viennent que pour nos services, pour se faire soigner. Et si tu demandes à ça, c'est ce genre de gens qui ont voté pour Brexit, quoi. Et je sais bien, j'ai un oncle qui a voté pour Brexit. C'est ma honte.
on a tous un oncle.
Tous cet oncle, tu
dis. Enfin, pas forcément, plus ou moins, bref, mais on en connaît tous. Hein.
Voilà. Et on s'est carrément disputé, c'était le jour après Noël, c'était le 26 décembre, un jour. Parce que pour nous, Boxing Day, c'est une fête aussi, le jour après le 26, c'est une fête aussi. Et je l'ai fêté avec ma famille, et effectivement, on a fait une grosse dispute. Et il m'a lancé tout ce genre d'argument de « il n'y a plus d'emploi pour nous, on a tout donné aux étrangers, il n'y a rien qui reste pour nous ». Tu sais combien d'argent on dépense sur les immigrants européens qui viennent ?
Parce que tu disais tout à l'heure, tu liais le phénomène du Brexit. Ceux qui ont voté le Brexit, c'est des gens effectivement qui sont plutôt contre l'immigration, contre les étrangers. Mais c'est pas forcément ça. Pas lié forcément. Il y a des gens.
En fait,
qui
le
sont,
problème, c'est qu'on
tout
a
simplement
des gens...
extrêmement patriotes. Oui. Enfin, je sais pas comment on peut le dire, mais
il y a ces gens comme ça qui sont
au niveau économique, je veux dire, hein, pas forcément humain, quoi, veulent que les ressources, que l'argent reste en Angleterre, quoi.
Forcément, il y a toujours ce genre de gens. Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'on avait des hommes politiques qui ont menti, carrément. Et après le vote, tout était dévoilé. Ils ont dit, oui, mais en fait, on a inventé ces chiffres et tout.
Des chiffres de quoi ? D'immigration, justement ?
D'argent qu'on dépense à l'Union européenne.
D'accord.
En fait, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Boris Johnson.
C'est quand même l'épouvantail du pro-Brexit, justement.
Et il avait un grand bus qu'il a acheté. Et sur le côté de ce bus, il a mis, genre, je pense qu'on dépense 3 millions par semaine sur l'Union européenne qu'on pourrait dépenser sur le NHS.
D'accord.
Mais en fait, il a menti, quoi. Ouais. C'est un mensonge complet. Et il a inventé carrément. Il n'y a même pas d'études derrière qu'il a changé un peu les chiffres. Il a complètement inventé. Mais il a fait tellement peur aux gens qu'ils l'ont cru. Et c'est les hommes politiques qui menacent et qui dispersent la peur entre les peuples et c'est comme ça que...
Et qui sont terriblement efficaces.
C'est ça. Je
vois que la roue tourne vraiment. Oui. On pourrait discuter vraiment longtemps. Ouais. Moi, il y avait un dernier sujet que je voulais aborder un peu pour conclure cette interview. On a dit l'Angleterre, c'est vraiment le pays de la pop culture, c'est le pays de la musique, parce que le Nord a quand même vu des sacrés artistes sortir aujourd'hui. L'Angleterre, c'est un peu la référence en termes de musique. C'est les Clash, c'est les Sex Pistols. C'est
Beatles,
Voilà, il y a toujours cette... Bon, alors, en fait, hors micro, tu nous as dit que Abba était des dieux absolus. Mais quand même, c'est pas pour nous.
Dancing Queen, c'est carrément l'hymne national.
Mais il y a toujours, c'est quelque chose de cette richesse musicale, c'est quelque chose vraiment qui fait partie.
Ça fait partie de notre culture qu'on garde très très proche à nous. Que si tu vas à Manchester, moi j'étais étudiante à Manchester, je connais bien. Et tous les bars, toutes les boîtes avec les groupes de musique là, c'est génial. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir avec et écouter avec.
C'est sûr qu'il y a une scène vivante aussi. Il y a une scène locale, des petits groupes.
Ah oui, toujours.
D'accord.
C'est quelque chose qui est très important à nous, qu'on garde très proche et très très important.
Et tout le monde y est attaché au niveau générationnel, c'est les jeunes de ton âge comme les plus âgés, enfin tout le monde s'intéresse
à la
musique.
C'est tout le monde, oui.
Ouais, ça fait vraiment partie du patrimoine, quoi.
Oui.
Ouais. Une espèce de fierté.
C'est ça,
on peut le comprendre.
C'est fierté,
on peut le comprendre, oui.
Alors justement, je pense que... Moi, j'aurais bien abordé des tas d'autres sujets, mais voilà. Et du coup, on va... D'abord, je vais te remercier beaucoup, Ruth, d'être venue...
C'était un plaisir de venir.
D'être venue nous voir, nous parler un petit peu d'Angleterre. Et puis, on va terminer justement cette séquence anglaise par un titre phare. C'est donc Anarchy. Anarchy in the UK.
Anarchy in the UK.
In the UK des Sex Pistols.
Right now. I am an anti-Christ. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. I wanna destroy, pacify, 'cause it's the only way to be.
Un œil ailleurs, des nouvelles du monde, sur Studio Zef.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Et après ces braillards des Sex Pistols, on va laisser la parole à Véro qui va nous parler de hors-jeu de Jafar Panahi.
Ah, le sport. Le sport ensemble, le sport rassemble. Le sport, cet élan de fraternité autour du même objectif. Ce langage universel qui abolit toutes les barrières entre les classes sociales. Le sport qui relie les hommes entre eux. Mais je m'emballe. Et je ne vous parle pas du film « Hors-jeu » de Jafar Panahi, réalisateur iranien, assigné à résidence, frappé d'interdiction de filmer pendant 20 ans, de donner des interviews et dont quasiment tous les films sont tournés clandestinement dans ce pays magnifique qu'est l'Iran, laissé aux mains de la bêtise qui est toujours humaine, qui sait, elle, ce qui est bon pour son prochain et encore plus pour sa prochaine. Hors-jeu, c'est l'histoire de jeunes filles iraniennes bien déterminées à assister au match de foot qui oppose le Bahreïn à l'Iran en lice pour la Coupe du Monde 2006, en dépit de l'interdiction faite aux femmes de pénétrer dans l'arène d'un stade. Pour cela, elles troquent le hijab contre casquette, chemise et pantalon large en espérant échapper à la vigilance des gardiens. La première d'entre elles se fait arrêter et rejoint dans un enclos improvisé à l'abri des regards d'autres filles gardées par des policiers aussi jeunes qu'elles. Au cœur de cet enclos, les actrices et acteurs, presque tous débutants, s'invectivent, se provoquent, négocient, parlent d'eux, de leur jeunesse asphyxiée par l'absurdité des interdits, avec en fond sonore l'ambiance déchaînée du stade. Parmi les filles, il y a celle qui joue au foot et qui montrera à ses camarades comment se passe un match dans leurs 10 mètres carrés à ciel ouvert. Il y a la forte tête qui posera des questions embarrassantes à un des gardiens en fumant des cigarettes sur les raisons de l'interdiction pour une femme de rentrer dans un stade. Celle qui pleure son ami mort au cours d'un match. Celle qui a perdu son ami dans la foule. Celle qui s'est déguisée en officier et qui craint vraiment pour son matricule. Et celle qui négociera un aller-retour aux toilettes avec un gardien qui maudit le ciel d'être tombé sur ses emmerdeuses un jour de match. Ce sont des figures autant couleurs que ces filles-là. Des dialogues spontanés qui mettent les pieds dans le plat avec beaucoup d'humour malgré la tristesse de la situation. C'est un film bavard à l'oriental, avec des postures de corps entravées, mais ni l'enclos ni les gardiens ne pourront maîtriser leurs questions. Au contraire, les jeunes hommes en uniforme sont embarrassés, et même s'ils n'en peuvent plus de ces filles trop impertinentes, on voit bien qu'ils sont gênés par cette situation et entament tôt ou tard le dialogue avec leurs sœurs, comme ils disent. À l'issue de ce match, nous voyons tout ce petit monde traverser la ville, en fait, à bord d'un bus, en direction de la brigade des mœurs, où les contrevenantes écoperont d'un avertissement, d'une amende ou de quelques heures au poste. Au passage, en Iran, les hommes aussi sont un peu concernés puisqu'ils doivent éviter les coupes de cheveux excentriques ou les pantalons trop courts. Pour espérer voir son film projeté sur les écrans de cinéma iraniens, le ministère de la Culture doit d'abord approuver le scénario. Ils vous font savoir ce qu'il faut enlever ou ajouter. Il faut leur montrer une nouvelle fois le film et à nouveau, ils ajoutent ou enlèvent des scènes avant d'autoriser la diffusion publique. Comme il est taquin, Jafar Panahi a donc contourné la censure en donnant le nom d'un membre de l'équipe de tournage comme étant le réalisateur de hors-jeu, en donnant un faux scénario où il n'y avait pas de filles et tout s'est très bien passé. Le tournage a duré 40 jours, au risque et péril de toute l'équipe, et pour continuer dans l'improbable, le réalisateur a parié sur la victoire de l'Iran pour une issue positive de son film, que je ne vais pas vous dévoiler bien sûr, mais qui aurait été bien plus triste que l'actuel si son pays avait perdu. Sachant cela, je me demande si je ne vais pas ressortir mon album de foot Panini des années 80 et m'acheter des chaussures à crampons, tellement la victoire sportive se fait en chantant. Les ingrédients de hors-jeu sont le vert, blanc, rouge comme le drapeau iranien que les supporters se peignent sur le visage, le stade comme lieu d'exutoire pour les hommes et lieu interdit aux femmes pour les protéger de toutes les insanités masculines, dixit la police des mœurs, une jeunesse éprouvée par tant de censures mais plus brillante et déterminée que jamais, et un hymne final non officiel qui ne parle pas de religion mais de terre et d'hommes. Hors-jeu de Jafar Panahi, sorti en 2006, disponible en DVD et en ligne de la médiathèque numérique si vous êtes abonné à votre bibliothèque préférée.
mal de pouvoir. Et ils sont d'un d'essayer mon art. Tout le monde a dit que je t'adore. Oh, yandé, mon idiome est d'or.
Et voilà, Un œil ailleurs, c'est terminé, ma petite Alice. Vous pouvez nous retrouver sur les ondes 91.10, un vendredi sur deux à 13h, ou podcaster notre émission et bien d'autres sur studiozef.fr. Donc un grand merci à toi, Alice. Hein, et puis Jérémy.
C'était un plaisir.
Voilà, Jérémy, salut. Merci beaucoup. Ruth, on te remercie encore une fois. Elle est restée jusqu'au bout avec nous. Merci beaucoup.
Et je pense qu'on pourrait se refaire une émission sur l'Angleterre. On aurait des tas d'autres. Des tas d'autres sujets à aborder, notamment le rapport avec les États-Unis, mais on ne dévoile pas.
Tout à fait. Bon, eh bien, on espère vous retrouver le mois prochain.
Dans un mois. Thème qui restera une surprise.
Exactement, on ne va pas tout dire maintenant.
Non, ce serait trop tôt.
On vous embrasse, à bientôt à la radio.
Et portez-vous bien.